Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Mon cher Mathieu, tu veux nous parler du mouvement Defund the Police, mais d'abord, Jacques Godin, un de nos plus grands comédiens qui est décédé. Mathieu, lorsque Michel Piccoli est mort en France, les réseaux de télé ont profité pour repasser des films de Michel Piccoli, des entrevues qu'il avait accordées pour saluer sa mémoire. Bon, ici, Jacques Godin, penses-tu qu'ils vont ressortir Radio-Canada, qu'ils vont diffuser des téléthéâtres dans lesquels il était et tout ça? Ben non, il n'y a pas de transmission. Il est mort, puis après ça, on pense à autre chose. Qu'est-ce que tu en penses?
Je me souviens, pendant le confinement en France, le premier confinement, avant le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, ils ont diffusé des films de Louis Funès, simplement. Et c'est comme si, dans un moment de crise, dans un moment de drame, on se tournait vers les grands moments de l'histoire du cinéma en France, l'histoire culturelle nationale, puis on ressoudait les Français, on ressoudait la nation autour de cette mémoire partagée, mais ça implique d'avoir un rapport intime avec ces grands créateurs, un rapport intime avec ces grandes œuvres, de valoriser ce patrimoine. Le drame, c'est que je suis pas certain que les Québécois valorisent leur patrimoine, qu'ils savent qu'en faire, comme si d'une certaine manière, ça appartenait à un monde ancien, et nous ne savons pas exactement quoi faire avec nos grands, ce qui fait qu'une bonne partie de notre patrimoine dort ou moisit ou se décompose.
Et c'est malheureux, c'est malheureux. Achille, moi, qui est à la console tantôt, nous a fait entendre un extrait là, de Des souris des hommes, la fameuse adaptation télévisuelle avec Jacques Godin du roman de Steinbeck. Et je te jure, j'avais des frissons, là, j'avais le poil au garde à vous parce que ça a marqué ma jeunesse, cette affaire-là. Et j'aimerais ça que les plus jeunes le revoient, ce truc-là. Là, même. C'est pas le rôle de Radio-Canada puis de Télé-Québec de diffuser aussi, de faire vivre notre patrimoine. C'est pas leur rôle.
Non, le rôle, c'est de rééduquer la population pour l'amener à penser correctement selon les codes actuels du régime diversitaire. Ne mélangeons pas les choses. Mais oui, théoriquement, dans un monde parallèle qui s'appellerait le monde d'avant la révélation diversitaire et le politiquement correct, ça serait le rôle, effectivement, des grandes sociétés d'État, de la télévision publique, radio publique, d'assurer la survie, la diffusion, la réinvention de ce patrimoine culturel. Je crois que ce serait absolument essentiel, mais je redoute aujourd'hui ce qui se passerait si on rediffusait certaines de ces séries, que ce soit Godin ou d'autres, parce que je devine qu'on trouverait toujours un mot à reprocher ou un autre. Je me rappelle un article récent dans la presse d'une journaliste qui demandait que faire avec la rediffusion d'anciennes séries télé qui portent des préjugés envers tel ou tel groupe.
Ben oui.
Ils sont tout simplement plus drôles. Comment peut-on? Faudrait peut-être créer un comité pour savoir ce qu'on peut diffuser aujourd'hui ou non. Mon Dieu, le jour où ils vont décider de repasser dans ces comptes, j'imagine le comité qu'il va falloir créé pour les
Mais tu as raison, parce que l'adaptation de Des souris des hommes, le personnage joué par Jacques Godin, était un déficient intellectuel qui tue une femme. Donc, on est en train de dire que tous les déficients sont des meurtriers. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas diffuser ça, voyons.
Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez triste devant cela, parce que on nous oblige aujourd'hui à faire de la politique avec tout. Alors que, théoriquement, la politique devrait être, encore une fois, dans ce monde parallèle, qui est simplement le monde d'avant-hier, la politique a pour vocation d'assurer la concorde de la cité, la prospérité de la cité, la transmission du patrimoine de civilisation. Aujourd'hui, on a demandé à la politique de reconstruire intimement jusqu'à nos sentiments, jusqu'à notre représentation du désir. Je me rappelle, dans Le Devoir, cet été, une artiste demandait à ce que l'État intervienne pour modifier la représentation du désir dans le cinéma et la littérature. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Donc, le rapport aux œuvres, le rapport à la culture ne structure plus notre imaginaire. On demande aux œuvres d'être d'abord et en tout pédagogique, de relayer la bonne vision du monde. De ce qui vient du passé, nous ne l'acceptons que si c'est sous le signe du musée des horreurs ou ce qui annonce notre génie actuel. Donc, les œuvres qui viennent, surtout dans le cas de Godin, je pense beaucoup à des éléments des téléséries québécoises, des grandes, certaines dans le téléthéâtre aussi. qu'est-ce qui j'ai l'impression qu'on est comme culture, on est de moins en moins capable de recevoir notre propre héritage. Je le dis avec avec tristesse, mais c'est un héritage qui théoriquement devrait et pourrait nous féconder, mais écoute, nous n'en voulons on veut plus nous-mêmes, c'est qu'on sait même plus qu'on pourrait le vouloir.
Et Mathieu, Yves Desgagné me disait, il était professeur à l'École nationale de théâtre, donc il enseignait à l'École nationale de théâtre, et ses étudiants, et là c'est pas des étudiants ordinaires là, c'est des étudiants qui allaient à l'École nationale de théâtre, donc ils sont sensibilisés à la culture, ils ne connaissaient pas Michel Tremblay. Je dis,
ah oui, quand même.
Tu sais, ils sont tombés là.
Ouais, bon, là on part de loin. On part de loin. La séance de rattrapage sera longue, mais c'est le drame de la culture québécoise contemporaine. C'est c'est le paradoxe de 1960. On a cru en 1960 liquider tout le passé en disant c'est la grande noirceur, puis on recommence maintenant, puis on repart une nouvelle culture québécoise. Puis Dieu sait qu'on a quand même créé des très belles choses à partir de là. Mais on a quand même décidé de refonder ça sur le mythe de la table rase. Je dis pas que c'est la vraie table rase, mais c'était le mythe de la table rase. Ben aujourd'hui, on est en train de nous refaire le coup de la grande noirceur avec tout ce qui précède la révélation diversitaire. Donc là, c'est les œuvres, Tremblay, ça sonne pas trop canadien-français. C'est inquiétant, ça. C'est pas discriminatoire. Donc, on se retrouve avec tout un univers de sens que nous ne savons plus que nous pouvons vouloir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé les séries de télé des années 90. Début des années 90, je vous donnais dans ses comptes tantôt, et Scoop, pour une raison toute simple, que c'est de la culture, c'est de la télé, mais c'est de la culture populaire. Mais en même temps, c'est Régent Tremblay qui faisait ça dans ce cas-là, non pas Michel, mais Régent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne une image d'un Québec en transition. C'est-à-dire, c'est le Québec qui porte encore la vieille cohérence qui a toujours été la sienne, mais qui est assez fort pour se sentir moderne, debout, tendre la main, sourire, parce qu'on est justement assez fort pour pouvoir tendre la main sans avoir l'impression d'être à genoux. Et ça, c'est un moment très particulier de notre histoire qui va avorter le 30 octobre 1995 pour les raisons que nous savons. Mais c'est un moment où on avait cette cohérence qui nous a permis de traverser les siècles, mais qui en même temps, on a la fierté de la société moderne. Et ce moment très particulier de notre histoire, c'est pour ça que j'aime ça le revisiter souvent, parce que c'est un moment où on a fait une synthèse qu'on peine à refaire aujourd'hui, évidemment dans une société, un monde nouveau, mais cette synthèse-là, il faudrait être capable de la refaire et on n'y parvient pas, hélas.
Tu as tout à fait raison. Écoute, samedi, j'étais en auto dans le centre-ville de Montréal. Évidemment, il y avait des policiers. Je dis, bon, une autre manif, parce qu'il n'y a pas un maudit samedi sans une manif à Montréal. Ça devient comme notre sport national. Et là, je voyais des pancartes et c'était tout en anglais. Sur des formes de police, c'était tout en anglais.
Alors, moi, j'ai mes deux théories par rapport à ça. Alors, ça se peut que ce mouvement des formes de police soit animé par de passionnés cosmopolites absolument dévorés par ce qui se passe aux États-Unis et qui croient à ce point au rôle du Québec dans le monde qu'ils s'imaginent qu'en brandissant les pancartes en anglais, ça enverrait au monde le signal que les Québécois se passionnent pour la question des services policiers aux États-Unis. C'est une hypothèse, mais j'en fais... Mais si tel est le cas, ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Très bien. Ben alors, ça ne nous concerne pas, on arrête d'en parler. Mais j'ai cru comprendre que les gens qui manifestent avec des pancartes en anglais sont persuadés qu'ils parlent de ce qui se passe au Québec. J'ai l'impression qu'ils se disent, oh là là, nous dénonçons de défendre... On est défendre de police québécoise, de défendre des SPVM. Là, je fais, oups! Donc ça veut dire que ce mouvement qui prétend parler aux Québécois est incapable de leur parler dans leur langue. Et non seulement il importe des problématiques et des slogans étrangers, mais en plus, il n'est même pas capable de parler aux Québécois dans leur langue. Donc de ce point de vue, c'est un mouvement qui, quoi qu'on en dise, aussi woke soit-il, est un mouvement colonialiste. Qui cherche à coloniser le Québec de manière idéologique et culturelle, l'américaniser. C'est un mouvement porté par des gens qui sont dans une logique coloniale, colonisatrice, qui veulent nous, autrement dit, liquider la différence québécoise. Ils n'ont même pas assez de respect pour nous, pour nous demander de changer, disons ça comme ça, dans notre propre langue. Désolé. Hein? Alors là, on est devant un mouvement colonialiste. Moi, devant les mouvements colonialistes, je suis mon premier réflexe est de dire un instant, vous allez quand même vous adapter minimalement à la société à laquelle vous voulez parler, parce que sinon, on va avoir un problème. Ensuite, l'idée de d'abolir la police, de défendre la police, de traiter la police comme on nous le dit, comme si c'était une force d'occupation contre les Autochtones et les populations racisées, et pratiquant un racisme généralisé, et comme si la police était illégitime, comme si la police était une force de domination illégitime, et non pas la première garante de la sécurité publique pour assurer la sécurité des uns et des autres, là, en plus, on bascule dans un univers idéologique d'extrême-gauche. Donc, si on conjugue le colonialisme anglo-américain plus l'extrême-gauche, je commence à me dire que ça me tente semble plus ou moins embrasser ce mouvement.
Et c'est beaucoup des gens de, il faut le dire, là, des gens de McGill et de Concordia, là.
Mais bien sûr, mais il n'y a pas de doute là-dessus. C'est paradoxal. Hein. On se retrouve avec, moi j'aime ça, c'est que les néo-rhodésiens sont progressistes. C'est ça qui est paradoxal. À tout le moins, ils sont persuadés de l'être. Ils assument ce sentiment de supériorité par rapport au Québec français qui sera composé de bougeux réactionnaires, racistes et xénophobes. Et là, au nom de la wokitude, hein, l'extrême wokitude, du sentiment d'éveil devant la diversité et des droits des minorités, on nous explique en anglais que le français est un obstacle à la diversité en Amérique du Nord. Ben, c'est génial. On traite le Québec comme une extension enneigée du Mississippi. Mais c'est formidable. Et on nous impose des grilles de lecture qui sont complètement décalées par rapport à notre situation. Et là, c'est fou parce qu'on se dit que les Québécois sont pas fous. En général, on n'est pas tous des génies, mais on n'est pas complètement fous non plus. Est-ce que les policiers ont su qu'ils ont dû changer leur travail ces dernières années, s'adapter à une société plus diversifiée? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas toujours devant eux des gangs de rue, puis souvent, ils ont des problèmes sociaux, des cogs, des problèmes mentaux lourds? Est-ce qu'ils cherchent à s'adapter à ça? Oui. Est-ce que l'adaptation se passe pas toujours bien? Bien sûr, il y a des fois qu'il y a des dérapages. Quand il y a des dérapages, est-ce qu'on les dénonce? Sans le moindre doute. Tout ça, là, on est capable de le faire. Mais quand on essaie de rajouter ça, de le rentrer dans la moulinette idéologique et nous expliquer, justement, j'y reviens parce que c'est quand même leur vocabulaire, que c'est une force d'occupation coloniale qu'il faudrait désarmer, définancer et abolir pour permettre une société, une forme, une autogestion diversitaire à Montréal. Hein, c'est quand même leur idée. Parce que fondamentalement, ça, c'est un territoire non cédé, il faut pas l'oublier. Quand on rentre dans cette logique-là, à un moment donné, on a l'impression d'être d'étouffé dans un univers sous-oxygéné. C'est un univers rempli de slogans, de références, de concepts qui sont complètement, même pas décalés, mais complètement extérieurs, ne pas dire hostiles à la réalité québécoise. Donc on aura envie de dire à ce mouvement, apprenez minimalement à vous familiariser mentalement avec l'univers québécois pour être capable de faire entendre vos revendications. Mais il se pourrait que quand on décide de manifester juste en anglais au Québec, ça se peut qu'on envoie le signal qu'on n'est pas vraiment intéressé par le Québec.
Et je voyais une fille qui se promenait là, défendre la police avec sa pancarte, puis je me disais, elle, si elle se fait agresser dans la rue, là, la première chose qu'elle va vouloir, c'est qu'un policier vienne l'aider. Comment?
Ah, ben, c'est une classique de 1968. Hein, c'est-à-dire, une scène de 1968, il y a les anarchistes en France, je pense qu'il y a Nanterre, qui disent, oh là là, la police, c'est le fascisme, la police, c'est le fascisme. Puis là, des groupuscules fascisants interviennent véritablement avec des matraques pour leur péter la tête. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils appellent la police. Bon. Alors, c'est loufoque. Les vrais fascistes, on les voyait, mais c'était pas des policiers. Il a fallu appeler les policiers pour se défendre, des vrais fascistes. Oups.
Ben oui, on se souvient du fameux slogan de 1968, le CRS-SS, ce qui était tellement débile.
C'était d'une intelligence formidable. Hein. Les SS, c'est CRS. Vraiment, c'est la même chose. Donc ça, non, j'ai l'impression que c'est toute une espèce d'idéologie anti-occidentale qui se déploie à travers ça, dans l'anti-police, dans tous les anti disponibles aujourd'hui. On a l'impression qu'on est devant une espèce de discours qui présente une vision fantasmée et criminalisée, complètement délirante des sociétés occidentales, la société québécoise notamment. Et on aurait envie de dire devant cela à l'espagnol « no pasaram ». On aurait envie de dire comme Gandalf « vous ne passerez pas ». On aurait envie de dire simplement « non merci les enfants ».
Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée, Mathieu Bocoté.
Bonne journée. Salut.